Actu, donc, on va jouer avec l'information locale. Marie, elle va vous instruire à sa manière sur Lyon et son histoire. Marie-Ève, on le disait, elle va parler sport grâce à Romain. Mais avant de faire tout ça, Florent, je t'ai confié une mission particulière en ce début d'année. Un peu l'heure du bilan et surtout qu'on a une petite nouvelle, la belle Mathilde derrière le micro. Alors, après un jingle, tu vas avoir la lourde tâche de présenter l'émission et toute l'équipe. Et donc, pour une fois, ce n'est pas un personnage que je reçois, mais c'est Florent qui va nous parler en son nom.
Alors, une équipe qui n'est pas tellement renouvelée finalement cette année. Donc, je vais vous présenter ceux que vous connaissez déjà. Donc, Thomas Lacombe, qui est très bon dans ce qu'il fait, comme son nom l'indique. Donc, Lacombe qui l'habite, hein, on peut le dire.
Oui,
toujours plus sympathique dès le début d'année, toujours très chaleureux, très tendre. Par ailleurs, nous avons Marie-Ève qui revient nous parler de quenelle et autres choses gargantuesques.
Oui.
Toujours pour nous mettre en appétit avec des recettes dont on se demande si elle les a prises finalement dans un livre du Père Ducrot ou le Kamasutra. On n'est jamais très sûr. On n'est jamais très
sûr. Pourtant, tu connais ma bibliothèque et mes favoris.
Bah oui, je sais. Non, mais je me souviens de cours de latin médiéval où tu étais plus prude alors qu'il s'agissait seulement de testiculus de castorum. Hein, mais donc apparemment, la quenelle te libère énormément. Par ailleurs, Marie, qui outre d'être une présidente formidable, est également une chroniqueuse exceptionnelle. Des récits d'histoires qui, pour être bref, n'en sont pas moins palpitants. Voilà.
En fait, ta bonne résolution en 2015, c'est d'être lèche-botte, non, c'est
exactement.
Ça,
non, mais je compte toujours sur les papillotes. J'ai vu qu'il y en avait eu à la dernière réunion. Moi, je compte. Enfin, on en a beaucoup parlé d'ailleurs des papillotes. Et enfin, on a troqué une blonde pour une Auburn. Je sais jamais comment on prononce ce mot, je suis vraiment désolé. Auburn, oui, d'accord. Et donc une Auburn végétarienne.
Pour une Auburn.
De surcroît. Non mais voilà, c'est intéressant. Donc j'espère qu'on ne perdra pas au change.
Mais tu l'as préparé ta chronique ou c'est juste
absolument
de l'improvisation?
Absolument pas, moi j'avais... Non, c'est complètement de l'improvisation.
Merci pour cette présentation rapide de l'équipe, hein, Florent, mais très efficace. Et puis peut-être que pour bonne résolution de 2015, peut-être que tu pourrais décider d'écrire tes chroniques et de ne plus les improviser. Il est temps de jouer, hein, cher Gon, avec l'actualité locale, avec cette question. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi 7 janvier à Lyon, à 18h, place des Terreaux?
Évidemment, la manifestation en l'honneur de Charlie Hebdo de l'attentat.
Là, la question n'était pas très difficile. C'était effectivement ce rassemblement de soutien après la tragédie du massacre de Charlie Hebdo. Du rire aux larmes, on va dire, chers auditeurs. C'est aussi ça, la radio. Hein. C'est aussi ça, les Gones. Et oui, nous n'allons pas vous mentir. Hein. Certes, cette émission est diffusée sur Transistor à partir du mercredi 14 janvier. Mais nous l'enregistrons jeudi 8 janvier, c'est-à-dire le lendemain de ce rassemblement. Hier, donc, le mercredi 7 janvier 2015, la République a vacillé quand on a massacré 10 journalistes et 2 policiers. Alors oui, hier, comme la plus belle des réponses à cette haine, à cet extrémisme, nous étions 15 000 place des Terreaux, de tous âges, de toute religion, de toute classe sociale, de toutes opinions politiques. Hier, nous étions la France debout, la République une et indivisible. Et hier, au milieu de cette foule, oui, j'étais très fier d'être français, d'être lyonnais. J'étais très fier de dire, moi aussi, que j'étais Charlie. Alors, vous y étiez autour de la table, vous, à ce rassemblement Place des Terreaux, Florent, je crois.
Ah oui, moi, j'y étais.
Ouais, il y avait énormément de monde. Hein.
Ouais, ben moi, j'ai pas réussi à entendre le discours de Colomb parce que j'étais coincé dans la rue qui va entre Opéra et Terreaux.
Ah bah, j'étais au même endroit que toi, je crois, la rue Sarlin.
J'étais coincé là, mais c'était émouvant de voir autant de gens.
Ouais, il y avait énormément de monde. Un discours de Gérard Collomb, et puis après, un discours du président de la Société des journalistes du Rhône, puis... un peu de musique classique et surtout beaucoup d'applaudissements. Est-ce que quelqu'un d'autre y était autour de la table à ce rassemblement?
Personnellement, j'y étais.
Roger Dextre, notre invité, qui a déjà pris place derrière le micro. Vous voulez réagir à ce rassemblement, à ce qui s'est passé hier, hein, parce qu'on ne le cache pas à nos auditeurs, on enregistre le 8.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien nommer ce qui se passe, parce
bien
que
ce n'est
pas, pas une manifestation. C'est un rassemblement, mais il n'y avait pas la niaiserie qu'on a parfois. Il y avait un grand silence, j'ai trouvé. Et puis effectivement, beaucoup d'émotions au moment des applaudissements, et puis au moment où les gens...
Mais en plus, moi, j'y suis repassé à 22h, et il y avait encore des gens devant qui déposaient des bougies sur les marches de l'hôtel de ville.
Bah, Florent, je crois qu'en plus, tu as été particulièrement touché hier, parce que...
Ouais, parce que moi, depuis que je suis petit, en fait, je lis, les, dessins... enfin, je lis les albums de Cabu et de Volinsky.
Oui.
Et ouais, non, du coup, ça m'a fait bizarre. Ouais.
Alors, est-ce que quelqu'un autour du plateau veut rajouter quelques mots rapides sur cette tragédie qui aura été largement commentée quand on diffusera mercredi 14 janvier
Et qui est déjà largement
et qui est déjà largement commentée quand on enregistre le 8. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Pour pas laisser l'extrémisme sous une autre forme se nourrir de cette tragédie, j'aimerais quand même rappeler qu'il faut pas essayer d'analyser la chose en faisant des amalgames entre l'islam et il faut pas laisser l'islamophobie reprendre et instrumentaliser cette tragédie.
C'était effectivement un message nécessaire à faire passer et on l'entend dans les médias, heureusement, Mathilde. Bon, et puis une solution, quand les temps sont troubles, on se dit qu'on aimerait changer d'air, qu'on aimerait changer d'époque. Alors les voyages dans le temps n'existent pas encore, mais nous, à Transistor, on a autre chose. Elle va essayer de vous redonner le sourire et vous convoque à la fin du Moyen-Âge. Elle, c'est Marie, et je lui laisse le temps d'un jingle pour se préparer parce que c'est pas une mince affaire de passer après ça.
Aujourd'hui, je renie mes principes d'historienne.
Ah bah bravo !
On va faire de l'histoire économique. Bref, on est au milieu du 15e siècle.
Ouais.
La bourgeoisie marchande soutient le roi Charles VII. Elle l'aide à mater une rebène du peuple lyonnais. Rebène, avant d'être un groupe de jeunes fachos, ça veut dire « rébellion parce qu'on crève la dalle en patois lyonnais ».
Ah oui, ouais, je ne savais pas.
Eh oui. Dans un autre registre, la bourgeoisie mate une jolie fille. La jolie fille a des traits italiens. On l'appelle la richesse.
Oui.
Charles VII a créé 3 foires pour Lyon. Louis XI y ajoute une 4e. J'ai bien compris. La richesse, elle fait des gâteries aux bourgeois. En tout cas, des banquiers italiens trouvent qu'Avignon et Genève, ça craint trop. Ils s'appellent Médicis, Gondi ou Gadagne. Ils s'installent à Lyon. À la fin du 15e, les foires de marchandises deviennent des foires de change. On parle beaucoup de langue en ville. Tellement qu'on surnomme Lyon « Mirelingue ». Ça veut dire « mille langues ». Avec 1000 coups de langue, je me suis dit qu'on lui en ferait bien des choses à la richesse. Louis XI veut que les nobles et les bourgeois achètent français. Il ne pose pas en marinière pour le parisien, mais il essaye d'implanter l'industrie de la soie à Lyon. Il ordonne aux bourgeois de créer des soieries. Les bourgeois ont pensé « on veut continuer à caresser la richesse ». Du coup, les bourgeois ont dit « on veut pas que les Italiens partent, la soie ne s'implante pas à Lyon ». En 1536, les bourgeois sont fâchés avec les Génois. Ils acceptent alors d'accueillir la première fabrique de soie lyonnaise. Le consulat de la ville les encourage. Elle a la masse de pauvres et d'orphelins à leur prêter. Comme dans toutes les sociétés industrielles, on a de la manœuvre bien sous-payée.
Oui, oui.
Jusqu'en 1554, l'activité n'est pas encadrée et n'importe qui peut s'installer à son compte. Énorme bordel. À la même époque, l'imprimerie débarque à Lyon. C'est les années 1470. Je me suis dit qu'un vent de folie soufflait peut-être à Lyon. Je voulais vous vendre du rêve. J'ai cherché s'il y avait des trucs croustillants et des livres érotiques.
Ah oui, bah oui, c'est ta spécialité en même temps. Hein.
Et j'ai rien trouvé. Ah. En fait, les imprimeurs font surtout des gros bouquins de droit. Je crois qu'on a les bouquins qu'on mérite. Ils font aussi des romans de chevalerie, des manuels de médecine, des livres religieux et des pièces en langue vulgaire. Les imprimeurs les plus friqués ont mis la richesse dans leur lit. Ils sont aussi libraires et impriment ce qu'ils veulent. Le plus connu, c'est Sébastien Griff. Je vous le cite parce qu'une rue de Lyon porte son nom et que je me suis longtemps demandé qui c'était. Lui, je peux vous assurer qu'il a joui de sa richesse. En 1532, il a édité Rabelais. Du coup, je pourrais vous parler de littérature. L'école lyonnaise s'agite avec vigueur. Moi, je pense à Maurice Sève et Louise Labbé. Heureusement qu'on a des imprimeries pour les éditer. Je vous laisse vous toucher dans la soie et la poésie. Bref, cette année, je suis raffinée. Comment ça, c'est raté?
Bon, allez, retour au présent. On continue de jouer avec l'actualité locale grâce à cette question. Lyon vient d'être classée meilleure ville d'Europe pour... Mais pourquoi?
Attends, moi je sais, c'est toujours les boîtes d'échangisme.
Non, ce n'est pas les boîtes d'échangisme.
Pour les clubs libertins, pour les quenelles.
Ça fait 3 ans qu'on a le titre. Quoi,
pour l'inflation dans les prix des musées.
J'ai peur, l'inflation après les clubs d'échangisme.
À Vienne, c'est bien pire, je t'assure.
C'est incroyable. J'ai été à Vienne, les musées coûtent un prix.
Ah ouais, ils n'ont pas compris le principe du tarif étudiant là-bas.
Bon, c'est le quotidien britannique de Daily Telegraph qui vient de publier un classement des 10 meilleures villes d'Europe, à la première place duquel on retrouve Lyon. Oui, mais un classement selon quel critère?
C'est un classement positif ou négatif?
Ah ouais, c'est plutôt bien pour
plutôt
la ville.
Bien. Oui.
Je sais pas, en même temps, c'est les Anglais qui classent les villes. Moi, j'ai quand même toujours un doute. Tu vois, alors, ils aiment quand même quand ça pleut et quand c'est bouilli.
C'est un lien avec les universités ou pas?
Non, ça n'a pas de lien avec les universités. Alors pourquoi, en deux mots, hein, Lyon est-elle la meilleure ville d'Europe ? Il y a Séville, Pizen en République tchèque, Mons en Belgique ou bien encore
je
Berne.
C'est bizarre, non ? C'est vrai, c'est bizarre. Il y a une ville belge dans un classement des meilleures villes d'Europe. C'est chelou, mais... possible.
Et la deuxième ville française dans ce classement, c'est Deauville à la 8e place.
Non mais,
et
voilà,
la première,
non mais voilà, 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 non mais tout est dit. Tout
mais
est
justement,
dit.
Réfléchissez, c'est pas des villes forcément très connues à part Lyon. Alors pourquoi
c'est des villes où il y a de l'eau.
Oui, c'est des villes où il y a de l'eau, mais c'est pas la meilleure ville pour l'eau.
Il y a un
l'eau,
casino quoi. À Lyon. Enfin, à part les supermarchés.
Non, ce n'est pas le casino. Peut-être qu'avec un indice, vous trouverez.
Il y a des courts séjours que l'on voudrait éternels. Et ce coin de Touraine, parfois méconnu, mérite une attention particulière. Elle regorge de richesses que je vous propose de découvrir dans court séjour.
Qu'est-ce qu'on s'amuse.
C'est une chaîne de télé locale de Touraine, quoi. Bon, elle vous a donné la réponse, cette animatrice journaliste.
Pour les courts séjours. C'est oui. Pour les meilleurs courts séjours.
C'est ça, effectivement.
Parce qu'on n'a pas envie d'y rester longtemps. Donc c'est les villes qui sont les mieux pour pas y rester longtemps, c'est ça.
Parce que c'est court, donc c'est bon. Mais c'est, mais oh mais ces anglais.
Ah mais ils sont pervers.
Lyon est donc la meilleure ville d'Europe pour un city break, un court séjour, hein, comme on appelle ça outre-Manche. Bon, oui, mais alors votre avis.
Attends, on appelle ça un city break.
Un city break.
Genre comme un prison break. C'est t'as envie d'en partir vite, c'est ça.
C'est non, mais oui, c'est tu tatoues sur le corps le plan de Lyon, ça peut être pratique. Ouais. Bon, mais grâce à quoi, à votre avis, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui attire là pour un court séjour? Pourquoi les Anglais ont envie
le
de venir
Lyon,
pour un...
la fête des Lumières?
Non, c'est pas dans l'article. Peut-être, hein, mais c'est pas les critères qui ont été retenus. D'autres idées, Marie-Ève? Qu'est-ce qui toi si t'es anglaise? Tiens, mets-toi dans la peau d'une anglaise. Fais-moi un accent britannique.
Mais j'allais dire non, c'est parce que ma maman vient régulièrement juste pour une nuit. Donc elle a boosté les ventes.
Attends, est-ce que la anglaise Jean vient juste pour voir ta maman pour une nuit à Lyon? Est-ce que c'est ça le... Non, parce que là, vraiment, Marie-Ève, on en découvre des vertes et des peignures. C'est n'importe quoi.
Elle a donné l'exemple aux Anglais, c'est tout.
Cette émission, elle part très mal. Hein, bon. Marie, qu'est-ce qui peut être un critère? Pourquoi toi, si t'es anglaise, pourquoi tu viendrais à Lyon?
Parce qu'une fois que t'as fait deux bouchons lyonnais, t'as l'appétit coupé et t'as plus qu'à partir.
Effectivement, la gastronomie est un des critères. Le fait que ça soit une capitale de la gastronomie, ça attire les Anglais. Mathilde,
mais enfin,
toi.
Mais Mons, c'est une capitale de la gastronomie.
Mais c'est peut-être pas les mêmes critères partout.
Non,
Mathilde.
J'allais dire pour la tarte à la praline, elle est certainement number one en Europe.
Ah oui, ça évidemment, mais c'est dans la gastronomie. Ouais. Ce qui les attire, c'est donc la gastronomie, ça vous l'avez bien compris. Les quais de Saône aussi, le musée des Confluences, ouvert récemment.
C'est des Anglais, enfin, je veux dire. Le musée des Confluences.
Ben oui, ça
a vu la gueule. Ils aiment bien l'éclectisme, ça va très bien.
Ah bien sûr.
Ils aiment bien les vaisseaux spatiaux.
C'est quand même les anciennes collections du musée Guimet, qu'est-ce que vous dites?
Est-ce que juste ils ont fait un classement de 10 villes avec des critères différents pour chaque ville? Parce que dans ce cas-là, ça s'appelle pas un classement en fait, ça s'appelle une liste. On a déjà parlé.
Non, c'est...
Et les listes, c'est dangereux.
Mais donc,
on est tous d'accord là-dessus.
Non, ne dis pas que je m'exprime mal. Je dis juste que les Anglais
non, je dis que
expliquent
eux s'expriment
après
mal.
Dans l'article pourquoi ils viennent à Lyon. Et donc, ils viennent aussi pour la Villa Florentine, qui est un hôtel de référence apparemment. Mais surtout, c'est l'arrivée de la liaison Londres-Lyon par l'Eurostar, hein, dès
Londres.
Le 1er mai, Londres du coup, oui, qui va permettre à la ville hein, de vraiment être rapprochée de l'Angleterre. Il suffira de 4h41 pour relier les deux métropoles en train. Et ça, c'est un argument phare aussi hein, pour justifier la première place dans le cœur des Lyonnais de Lyon.
Bon, alors, de Lyon, des Lyonnais de Lyon.
Oui. Dis donc, tu veux qu'on en parle de ta chronique
on
à toi?
On va en parler.
Ouais. Bon alors, bizarrement dans la liste, hein, ce qui attire les Anglais, c'est pas vraiment la vie sportive lyonnaise. Faut dire que... Transition. Faut dire que s'ils écoutent Romain et sa chronique, hein, ils savent que cette année, Lyon a un peu de mal, hein, niveau sport. Justement, en ce début d'année, pour notre journaliste sportif en herbe, c'est l'heure du bilan. Et c'est Marie-Ève qui sert de prête-voix. Et dans ces cas-là, on sait que oui... Il va y avoir du sport.
Ho ho ho, mais c'est le Père Noël. On préfère tous sa fille, on est d'accord. Enfin, le « on », je suis pas d'accord, mais bon, ça fait rien. Et c'est parti pour cette chronique sponsorisée par le club Deep Pharaoh. Je laisse Thomas vous expliquer de quel genre de club il s'agit.
Pardon, timide tout le monde comme Gandalf.
C'est parce que j'ai vu le film aussi récemment.
Du Père Noël ou de Gandalf? Non, parce que je comprends pas en fait, c'est d'accord.
Voilà, Thomas, explique-nous ce qu'est le Deep Pharaoh, parce que ça m'a intrigué.
Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon. Je ne suis pas dans le cerveau malade de mon frère non plus, je peux pas être dans tous
les
cerveaux.
Alors pour nos chers auditeurs, explication lors de la prochaine émission.
Ouais, voilà. Je trouverai une explication.
On m'a dit donc de faire le bilan de l'année 2014, enfin on a dit à Romain, bref, dans le monde sportif lyonnais. Et on commence par l'OL. Cette année, le bilan est plutôt positif, même s'ils se sont fait éliminer de l'Europa League avant les poules, que la défense est une passoire et que Danick est toujours là. Mais c'est pas Danick le rouge, non? Ça n'a rien à voir.
Non, je crois qu'on dit Danick en plus, oui, mais c'est pas grave.
D'accord, il manque à la cédille. Dis-le à Romain. Sinon, on peut noter que Gourcuff est encore blessé.
Ça, c'est bien prononcé.
Ou presque. Et que Jean-Mic-Mic...
Mich-mich, Jean Mich-mich.
Mais c'est pas possible.
Je pense qu'elle le fait exprès, enfin, je veux dire, à un moment.
Bon, en tout cas, que Jean est toujours là. On va retenir trois moments forts de ce début de saison.
Jean-Michel Aulas,
quoi. Ah, je savais pas son petit nom.
On va... Président de l'Olympique Lyonnais, quoi, enfin, je veux dire. Oui.
Bon, on va retenir donc trois moments forts, et je parle pas de ma chronique, de ce début de saison.
Non, je pense pas, ouais.
Tout d'abord avec la révélation Alexandre Lacazette, meilleur buteur de championnat
ça,
avec 17 buts. 17 buts quand même, Thomas.
Lacazette, oui.
Ensuite, la claque 3-0 contre le rival stéphanois. Et pour terminer, je soulignerai la très bonne performance des Gones en étant deuxième au moment de la trêve hivernale.
Eh ben oui, quand même, oui.
Les Gones de l'OL, bien sûr, parce qu'ici, il n'y a plus rien à espérer. Le bilan de l'OL féminin? Mais je dis oui, oui, oui. Alors ça devait être une imitation. Je vous explique de quoi. C'était une imitation de...
Non, n'explique pas, n'explique pas.
De Julien Lepers, que j'ai regardé pendant toute mon enfance. Je l'ai regardé pendant toute mon enfance quand même. Je me suis entraînée.
Oui, oui, oui. C'est comme ça.
Ah, mais je m'en souviens plus. Oui, c'est vrai que ça fait quelques années.
Incroyable.
Que je l'ai...
Incroyable.
Bon, presque parfait. Romain me déboussole cette année. Bon, c'était presque parfait, si ce n'est l'élimination en Coupe des Champions. Mais cela n'efface en rien leur talent. Merci mesdames, vous remontez le niveau du sport lyonnais.
Merci les lyonnaises, oui.
Passons au basket maintenant. Quoi? J'ai dit un mot qui fâche? Ah non, je ne l'ai pas encore dit. Énervant. Mais c'est ce qu'ils sont. Depuis que le coach Pierrot est parti pêcher sur la Lune, on voit enfin la couleur de la victoire à Lyon.
Eh oui.
Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Edwin Jackson est en partance pour Barcelona, l'arrière-garde villeurbanaise. Pourtant, si flamboyante, va sûrement demander au secours aux pompiers. Et puis, qui sait, peut-être qu'Andersen va enfin bien jouer. Non, Romain déconne. Pour terminer, en bref et sans respirer, le bilan de 2014 des autres sports évoqués dans cette chronique par Romain depuis septembre. 3, 2, 1, c'est parti. On commence avec le loup qui est au fond du trou. Ah ouh, merci Tatiana, pas loin de repartir en D2, il faudrait faire une épilation. On continue avec un calme plat, une sorte de désert sans dune, celui du bilan sportif de Thomas. On termine avec les lions de Lyon, les hockeyeurs qui n'ont toujours pas retrouvé de couleur. Ouf, c'est fini. Et c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais vous retrouverez très vite Romain pour une nouvelle chronique sportive. Et d'ici là, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez le... Florent.